Ce sont pas moins de 770 radios associatives en France qui sont menacées suite à un risque d'une baisse de moins 44% du fonds de soutien à l'expression radiophonique dans le projet de loi de finances 2026. Cette menace n'est pas nouvelle. Il y a un an, le risque de disparaître pour les radios associatives existait déjà. Ce mardi, une rencontre était organisée avec le ministère de la Culture pour que cette baisse importante ne soit pas mise en place. Parmi les personnes présentes, Jean-Marc Courrèges-Desséna, co-président du CNRA et de l'ARA, est directeur et fondateur d'Atomic Radio. Jean-Marc, bonjour.
Bonjour.
Alors ce mardi, vous êtes allé au ministère de la Culture. Qu'est-il ressorti de cette rencontre ?
Écoutez, une écoute attentive de la part du cabinet de Madame la Ministre, avec bien évidemment une prise en compte de nos grosses inquiétudes concernant l'avenir des radios associatives en France. Il faut quand même rappeler que c'est une coupe sombre qui nous concerne directement, avec une baisse de l'enveloppe du fonds de soutien à l'expression radiophonique de 44%. Alors c'est vrai, il y a peut-être certains auditeurs, certaines auditrices qui peuvent se dire « Oui, il s'agit encore de subventions pour les associations, assez dans un contexte de crise budgétaire, il faut que tout le monde se serre la ceinture. » Je tiens juste à rappeler quand même que les radios associatives sont des radios qui sont contraintes. C'est-à-dire qu'elles sont dans l'impossibilité de dépasser 20% de leur chiffre d'affaires en termes de recettes publicitaires. Donc c'est une contrainte. Et le fonds de soutien à l'expression radiophonique, c'était à la base un fonds de péréquation qui était censé nous donner les mêmes moyens que les radios commerciales. Je rappelle juste donc que nous sommes contraints par la loi en rapport à la catégorie de radio, catégorie A, qui est défini comme ça dans la loi et par l'autorité de régulation.
Alors qui finance le FSER ?
Alors le FSER s'est budgétisé auparavant, je dis bien auparavant, mais ce n'est plus le cas. Il s'agissait d'une taxe parafiscale qui était prélevée sur les régies audiovisuelles, c'est-à-dire les régies publicitaires, des radios, mais aussi des télévisions. Ça, ce n'est plus le cas depuis 2019, où cette taxe parafiscale a été purement et simplement supprimée. Pourquoi cette taxe avait été mise en place ? Parce que tout simplement, les fréquences, ce sont des ressources, c'est un bien public qui est mis à disposition de sociétés privées pour pouvoir faire de la publicité. Là, je parle pour les radios commerciales, ce n'est pas le cas pour les radios associatives. Donc, ce bien public était monnayé via cette taxe parafiscale et en 2019, elle a été supprimée. Elle a représenté en 2019 un montant de 41 millions d'euros, ce montant abondait le budget de l'État. Et on voit actuellement, l'enveloppe du fonds de soutien est à 35,3 millions d'euros, c'est moins 6 ans après par rapport à ce qu'était le montant de cette taxe parafiscale.
Alors ce FSER, il faut le préciser, est attribué chaque année sur dossier, hein, il n'est pas donné comme ça.
Non, le dossier est même assez complexe. Il faut présenter des preuves des différentes actions menées sur le terrain, qu'il s'agisse des actions éducatives et culturelles, de la lutte contre les discriminations, ou alors sur le développement local. Ça, ce sont les trois critères principaux pour obtenir une aide sélective au niveau du fonds de soutien à l'expression radiophonique. Et puis, il y a bien évidemment le bilan, plusieurs demandes. Le dossier est quand même assez complet. Il y a une commission qui examine ces 770 dossiers au total sur Paris. Donc, lors de la commission, de chaque commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique. Non, c'est un élément administratif qui est très lourd à porter pour nos structures dans lesquelles, en fait, nous n'avons pas beaucoup de salariés pour pouvoir s'occuper uniquement de l'administratif.
Alors, pour que les auditrices et auditeurs se rendent compte du fonctionnement d'une radio associative, quelles sont les charges d'une radio ?
Les charges, elles sont multiples. Tout d'abord, il faut de l'électricité, parce que l'électricité, c'est la diffusion des émetteurs. Bien évidemment, il y a des charges sociales avec des salariés, que ce soit dans la partie administrative, au niveau technique, au niveau de l'animation ou du journalisme. Il y a d'autres charges, bien sûr, comme les droits afférents, droits d'auteur pour les producteurs, donc c'est-à-dire la SACEM, la SPRE aussi, pour ceux qui connaissent. Donc ce sont des montants quand même qui sont assez conséquents pour des structures de l'ESS comme les nôtres, c'est-à-dire de l'économie sociale et solidaire, des associations, qui n'ont pas non plus un budget très important.
Avec en plus l'AFM et le DAB+, depuis quelques années, et la diffusion par Internet.
Il faut dire que les charges, oui, se multiplient parce que le média radio, il évolue. Et il évolue avec plusieurs supports sur lesquels il faut absolument que nous soyons. L'AFM, bien évidemment, pour l'écoute linéaire, l'écoute en mode broadcast, désolé pour l'anglicisme. Le DAB+, qui est la nouvelle technologie de diffusion en mode broadcast de la radio, donc c'est la radio numérique terrestre. Il y a aussi, bien évidemment, d'autres charges comme l'écoute délinéarisée, donc c'est-à-dire de faire écouter nos émissions via des podcasts pour pouvoir écouter en replay, là aussi, désolé pour l'anglicisme, les émissions des radios.
Alors si malheureusement la baisse du FSR avait lieu, quelles seraient les conséquences pour les radios associatives ?
Les conséquences seraient directes, c'est-à-dire c'est la fermeture de plusieurs centaines de radios associatives. C'est l'arrêt brutal à la communication sociale de proximité. C'est une démocratie locale que l'on étouffe parce que, quand même, il faut savoir, très souvent, les radios associatives sont présentes là où d'autres médias ne sont pas présents. Ce n'est pas uniquement leur raison d'être. Attention, il ne faut pas dire que les radios associatives doivent être présentes uniquement sur ces territoires reculés, territoires ruraux, territoires périurbains ou alors les zones de montagne. Mais très souvent, oui, nos radios sont présentes sur ces territoires et sont parfois les seuls médias d'expression citoyenne locaux présents donc sur ces territoires. Donc il y a ça. Et puis il y a bien évidemment les emplois. Nous sommes quand même le deuxième secteur au niveau des radios à employer le plus de personnes. On estime à plus de 2000 le nombre de suppressions d'emplois consécutifs à cette baisse de l'enveloppe du fonds de soutien.
Quelles sont les prochaines étapes pour la défense du FSER ?
C'est la mobilisation de toutes et tous, des radios, bien évidemment, pour qu'elles puissent interpeller leurs élus locaux, des auditeurs, des auditrices, qui peuvent aussi interpeller, bien évidemment, leurs élus pour qu'ils puissent défendre l'intérêt des radios associatives et puis surtout leur survie. Donc il va y avoir des discussions à l'Assemblée nationale, je veux dire même qu'il va y avoir des discussions parlementaires parce que ça se joue à l'Assemblée nationale mais ça se joue également au Sénat. Donc voilà, il va y avoir des discussions, plusieurs discussions pour pouvoir amender la proposition sur ce PLF 2026, en fait, de réabonder l'enveloppe du fonds de soutien. Nous espérons à minima à ce qu'elle est aujourd'hui, mais nous espérons quand même, je dirais pas un bonus, mais en tout cas, que le fonctionnement de ces radios soit rémunéré à la valeur du travail qu'elles fournissent sur le terrain.
Je ne sais pas si on l'a précisé, depuis plus d'une vingtaine d'années, le FSR n'a pas été revu à la hausse. Hein.
Alors là, je reviens sur l'explication du fonds de péréquation. Ouais. Dans péréquation, il y a équation. C'est des mathématiques. Et en fait, l'équation, le calcul était à réaliser pour nous donner les mêmes moyens que les radios commerciales. Dans cette équation, il y avait la taxe parafiscale qui était alloué aux régies audiovisuelles, donc radio et télévision. Il y avait la prise en compte de notre fonctionnement, des charges sociales, et à l'époque, en plus, il y avait des contrats aidés, comme les emplois jeunes, par exemple, qui étaient pris en charge par l'État à hauteur de plus de 90%. On a totalement décroché depuis 2002, même sur les plus hautes tranches pour l'aide à l'exploitation individuelle pour chaque radio associative. Ça a même baissé... alors je ne me rappelle plus trop l'année, je crois que c'était vers 2015 à peu près, où sur les tranches supérieures qui étaient à 42 000, 40 000 et 36 000, c'est passé respectivement à 40 000, 38 000 et 35 000. Donc déjà, ne serait-ce que sur l'exploitation propre des radios, les barèmes supérieurs ont baissé mais en plus n'ont pas suivi la courbe des charges qui explosait, plus quasiment 70% pour les charges sociales, idem pour l'énergie, même parfois où ça frise les 80%. Donc oui, si il fallait faire le calcul actuellement, il faudrait que le fonds de soutien soit quasiment à 70 millions d'euros et non pas à 35 millions d'euros. Alors c'est vrai que ces chiffres, ils peuvent paraître quand même assez, pour chaque foyer, des chiffres quand même assez conséquents, assez importants. J'aime juste quand même à rappeler que nous représentons sur le budget du ministère de la Culture que à peine un peu moins de 0,4% du budget du ministère de la Culture. C'est rien. Or, sur ce budget qui est quasiment stable, qui baisse d'à peu près 4%, nous on nous demande de baisser de 44%. C'est juste inacceptable.
Jean-Marc Kouréchenac, merci. Je rappelle que vous êtes co-président du CNRA et de l'ARA et directeur et fondateur d'Atomic Radio. Merci.
Et co-président aussi des locales qui réunit le SNRL, le Syndicat National des Radios Libres, et donc la CNRA, la Confédération Nationale des Radios Associatives. C'est important de dire ça parce que les deux organisations de représentation des radios sont unies en fait pour défendre l'intérêt des radios associatives.